Voilà, ce matin, je vous invite encore une fois à ouvrir nos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 6. Je dis encore une fois parce que ce message fait suite à toute une série d'enseignements, d'exhortations sur le thème de la vie de l'esprit, notamment le parler en langue, le don de prophétie. Et ce matin, eh bien, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, nous allons conclure pour l'instant sur ce sujet. Alors nous lirons donc les 6 premiers versets, nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais je ferai référence à beaucoup de versets de ce chapitre 1 Corinthiens 14, versets 1 à 6. Recherchez l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, mais de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Amen. Voilà, l'église de Corinthe était une église bouillonnante, parfois trop. Et cela a amené sur bien des points l'apôtre Paul à devoir les corriger. Et notamment dans ce chapitre 14 de cette première épître, il traite de la question de la manifestation des dons spirituels dans l'église de Corinthe. La première des choses qu'il nous dit, c'est que tous les dons étaient présents dans cette assemblée. Le problème était un problème d'exercice, car il y avait une espèce de compétition, de surenchère, où chacun y allait l'un de son don en langue, l'autre de son interprétation, l'autre de sa prophétie. On ne s'attendait même pas les uns les autres, au point qu'on ne s'entendait plus. Et face à ce débordement, l'apôtre Paul veut les ramener à un équilibre. Alors il cherche à les corriger, non pas les brider, non pas les contrôler, car ce n'est pas ainsi que procède l'apôtre Paul. Il ne veut pas que le culte des Corinthiens devienne un culte formaté, minuté. Il cherche à ce que ce culte reste toujours un culte vivant, spontané, mais un culte où on puisse être édifié. Car chacun parlant de son côté, chacun exerçant tel ou tel don spirituel, le but n'était pas atteint parce que personne n'était édifié. Personne n'en recevait du bon. Alors Paul veut les ramener à la raison biblique. Il ne veut pas les enfermer, il veut leur permettre, dans un cadre bien équilibré, à la fois de s'encourager les uns les autres, mais aussi il veut leur permettre d'exercer spontanément ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Les deux ne sont pas incompatibles. On peut très bien observer un cadre biblique tout en gardant une spontanéité, une fraîcheur. C'est ce que nous allons essayer aussi de voir ce matin, Dieu voulant. Alors, après tout un ensemble de prédications sur le parler en langue et sur certains dons spirituels, ce matin je voudrais aborder deux dernières questions. La première, c'est quand devons-nous parler en langue? Et la seconde, comment devons-nous parler en langue dans les cultes de l'Assemblée? Donc, première question, quand devons-nous parler en langue? L'apôtre Paul disait, à propos de sa propre expérience, qu'il parlait, qu'il priait abondamment en langue. Il pouvait prier 10 000 paroles, semble-t-il. Et il nous dit, n'empêchez pas de parler en langue. Et il souhaite que chacun d'entre nous puissions, notamment dans notre culte privé, dans notre culte personnel, parler en langue comme lui parlait en langue, avec une richesse, avec une puissance. Je vous le rappelle, la prière en langue est une prière tout à fait particulière. Premièrement, c'est une prière d'obéissance. L'apôtre Jacques nous dit que ce petit membre, la langue, est comme le gouvernail de notre vie. Et lorsque nous parlons en langue, c'est comme si nous abandonnions finalement ce gouvernail de notre vie, nous l'abandonnons au contrôle du Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui va agir. Notre intelligence va devenir stérile, elle va passer en retrait, et c'est l'Esprit qui prie. Et donc le parler en langue devient une prière de communion. L'Esprit priant à travers nous, l'apôtre Paul nous dit aussi que nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu à travers son Esprit, par son Esprit. Nous pouvons chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Mais attention, quand je dis que le parler en langue est une prière de communion, je fais référence ici à un parler en langue qui soit un véritable parler en langue et non pas « Oh, pardonnez-moi, je vais le dire parce que tout à l'heure je me suis retenu, mais je vais le dire maintenant, comme ça sera clair, ce ne sont pas quelques roucoulades. » Quelques bribes de je ne sais pas quoi, ça c'est pas parler en langue, c'est des habitudes que nous avons, disons-le. Moi je parle d'un parler en langue qui s'est imprégné de la présence du Saint-Esprit. Un parler en langue qui a grandi en nous, qui se développe en nous, qui devient véritablement comme un débordement de l'Esprit. Alors nous sommes en communion avec le Seigneur. Et le parler en langue est une prière qui est une prière d'adoration. Au jour de Pentecôte, les gens qui ont entendu, les disciples, les apôtres, parler en langue, disaient, ils racontent les merveilles de Dieu. Nous parlons à Dieu, nous disons des mystères en esprit, mais quel mystère extraordinaire nous disons au Seigneur. Le parler en langue est aussi une prière de foi, mais c'est une prière spirituelle, c'est une prière puissante, nous ne savons pas ce que nous disons. Mais à travers les langues que nous manifestons, Dieu agit. S'il est capable d'intercéder à travers les soupirs que nous arrivons à peine à exprimer, à plus forte raison est-il capable d'intercéder à travers les langues que nous faisons monter vers Dieu. Et mes frères et sœurs, lorsque nous prions en langue, il y a des temps où nous adorons, il y a des temps où nous combattons spirituellement, il y a des temps où nous prions. Mais nous prions par l'esprit, nous ne prions pas par l'intelligence. Il ne s'agit pas de commencer à réfléchir, tiens, je vais prier sur quoi en langue. Ce n'est pas ça. Nous prions en langue et Dieu s'occupe du reste. C'est lui qui mène le combat. Peut-être ce jour-là, prieras-tu pour un frère, une sœur, un missionnaire à l'autre bout du monde. Et moi alors, ne te fais pas de soucis. Dieu s'occupe. Peut-être a-t-il choisi un autre pour prier pour ton sujet. Mais tu le fais en esprit, tu le fais en langue et Dieu agit. Parce que la prière en langue est une prière de l'esprit qui agit dans le monde spirituel. Là où l'intelligence ne peut rien, mais où l'Esprit du Seigneur règne en maître. Et quand nous sommes dans cette communion, l'Esprit de Dieu agit dans les cieux avec des répercussions sur la terre. Lorsque nous prions en langue, nous nous édifions, dit l'apôtre Paul. Édifier d'un verbe grec qui littéralement veut dire construire une maison. Quelle maison construisons-nous? Ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Et quand nous parlons en langue, nous construisons ce temple. Nous consolidons ce temple. Nous remplissons ce temple de la présence du Seigneur. Et en cela, le parler en langue est aussi important. Enfin, dernier point, il y aurait tant de choses à dire encore sur cette prière en langue dans notre culte privé. C'est aussi, je vous le rappelle, une prière de repos. Mon intelligence passe en mode repos. Volontairement, je la rends stérile, inactive. C'est difficile. C'est pas évident de débrancher là. Ça ne veut pas dire qu'on perd contrôle de nous-mêmes, mais ça veut dire qu'à un moment, on laisse l'Esprit de Dieu passer en premier plan et on rentre dans cette dimension de l'Esprit. Seigneur, mets du repos dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Je ne cherche plus à calculer, à savoir ceci, à savoir cela. C'est toi, Seigneur, qui conduis ma prière et je sais qu'elle est efficace et je suis dans le repos, alléluia. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que le parler en langue n'est pas un plus, n'est pas une option, mais c'est un élément essentiel de la prière du chrétien. C'est une prière que Dieu a préparée afin de nous amener plus loin, plus haut, d'être plus puissant. Parce que ce n'est plus simplement nous qui prions, mais nous prions avec les armes de l'Esprit. avec la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Mais tout ce que j'ai dit, je viens de le dire pour la prière dans le cadre du culte personnel. Et maintenant, qu'en est-il du parler en langue dans l'Église ? Et là, nous découvrons dans 1 Corinthiens 14, verset 19, cette parole de l'apôtre Paul qui dit que dans l'Église, il aime mieux dire 5 paroles avec son intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Autrement dit, Paul préfère, dans le culte de l'Assemblée, il préfère 2 000 fois plus prier avec son intelligence qu'avec son esprit. Que devons-nous comprendre ? D'un côté, dans notre culte privé personnel, parlons abondamment en langue, prions ces 10 000 paroles en langue dont l'apôtre Paul parle. Mais dans le cadre de l'Assemblée, favorisons l'expression d'une prière en langue courante, sans empêcher de parler en langue. Qu'est-ce qui amène Paul à faire cette différence ? Pourquoi d'un côté nous presse-t-il de parler dans notre culte privé abondamment en langue, et puis dans le culte de l'Église de dire « Attention, faites-le avec équilibre ». Eh bien, nous allons voir qu'il met en avant 2 principes. D'abord, un principe d'édification, et ensuite un principe de prévenance. Un principe d'édification. En parlant en langue, nous parlons à Dieu. Nous racontons ses merveilles. Nous lui apportons des actions de grâce, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Seulement, dans le cadre du culte de l'Assemblée, telle qu'elle, ces langues nouvelles ne sont d'aucune utilité. Attention, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis qu'elles ne sont d'aucune utilité parce que pour l'Église, pour le reste des frères et sœurs, elles sont incompréhensibles. Elles sont incompréhensibles. Je vous renvoie au mot que Paul utilise, le mot barbare. Elle sonne bizarrement à nos oreilles, elle n'apporte rien du tout. Or, vous relirez, si vous voulez, 1 Corinthiens 14, la prochaine fois que vous y viendrez, vous noterez le nombre de fois où le mot édifier, le verbe édification, etc., est mentionné dans ce chapitre. Un chapitre concernant la vie de l'esprit, la manifestation des dons spirituels dans l'Église, le leitmotiv qui revient, c'est que toute manifestation spirituelle ne doit pas être un mystère, mais doit servir à la construction de l'Église, à la construction de la foi, et il doit donc atteindre un but, doit avoir une utilité. Mais si nous parlons en langue, oui, le Seigneur est glorifié. Mais ça n'est pas utile. Et le Seigneur préfère que nous disions 5 paroles en français ou dans notre langue courante qui, elles, vont encourager, bénir, apporter quelque chose à ceux qui nous entendent et qui pourront répondre amen à notre prière. Vaut mieux dire « Dieu est grand et plein d'amour » que de parler pendant 10 minutes en langue. Je parle dans le cadre du culte. Sinon, c'est avoir un comportement complètement égoïste. Je parle en langue. Ah, Seigneur, je t'adore, je parle en langue. Mais Dieu nous dit, mais non, ça ne sert à rien. Moi, c'est pas ce que je veux, dirait Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est quelques paroles auxquelles un frère, une sœur, peut-être quelqu'un de passage au milieu de nous pourra dire amen. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Il existe toutefois, dans le cadre du culte, une particularité, une exception. Je vais y aller dans quelques secondes, c'est celle du don spirituel en langue. Et là, il peut nous arriver de manifester un don en langue publiquement, à cette condition que celui-ci doit être nécessairement interprété, accompagné du don d'interprétation. Un principe d'édification. Dans le culte, tout doit être utile. Dans le culte, tout doit amener au perfectionnement de la foi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà un culte raisonnable. Je parlais donc d'un principe d'édification, je veux parler maintenant d'un principe de prévenance auquel l'apôtre Paul fait encore allusion. Paul souhaite que nous évitions de parler en langue tous ensemble dans nos cultes, et je le formule ainsi parce qu'il est nullement question d'une interdiction. Paul ne nous interdit pas de parler en langue. mais il veut plutôt l'exercice d'une certaine sagesse. Et c'est là qu'apparaît le principe de prévenance. Nous l'avons déjà mentionné. Imaginez donc un brave Parisien, je vais dire presque fortuitement, par mégarde, en arrive à rentrer dans l'assemblée. Et voilà que, tous ensemble, nous sommes en train de louer le Seigneur en langue. Nous nous réjouissons. Mais lui, entendant cela, se demande, mais dans quel endroit suis-je arrivé ? Qu'est-ce qui leur arrive à cela ? Il ne comprend rien. Il ne peut pas comprendre. Mais en plus, comme le dit l'apôtre Paul, et je vous l'ai dit, je peux dire ce mot parce que lui-même l'a écrit, inspiré par le Seigneur. Ils vont dire, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que nous devons veiller à cela. C'est un principe de sagesse. Parce que ceux qui rentrent, nous préférons qu'ils entendent « Jésus est Seigneur » que quelqu'un parler en langue, si ce n'est pas interprété. Savez-vous même qu'au jour de Pentecôte, on a frisé cet écueil. Les 120 ont commencé à louer le Seigneur en langue, dans des langues d'hommes, plus d'une quinzaine de langues, rappelez-vous. La foule est arrivée. Ils les ont écoutés un moment. Et certains, les plus modérés, ont dit « Que veut dire ceci ?» Tandis que les autres ont dit « Mais attendez, ils sont pleins de vin doux. » Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne voyaient pas le but de cela. C'est alors que l'apôtre Pierre se lève. Et il va commencer par resituer l'expérience dont ils sont les témoins dans le cadre biblique faisant référence au prophète Joël. Mais là n'est pas l'essentiel de son message. Son message ensuite porte sur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Cet homme mort sur la croix mais ressuscité. Cet homme élevé dans la gloire, fait Christ et Seigneur par le Père. L'apôtre Pierre n'a pas prêché sur la bénédiction de Jérusalem. Il n'a pas prêché sur le parler en langue, il a prêché sur Jésus. Et c'est la prédication de Jésus qui a vivement touché le cœur des gens qui étaient là et qui ont répondu, « Homme, frère, et que ferons-nous ? Repentez-vous et soyez baptisés. » Et ce jour-là, 3000 se sont convertis, non pas à cause des langues, mais à cause de la prédication de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais passer à cette autre question. Comment devons-nous parler en langue dans l'Église ? Et c'est là que je vais pouvoir introduire ce point d'enseignement que je tenais à partager avec vous avant d'aller sur un autre sujet, celui qui concerne le don de diversité des langues, comme l'apôtre Paul l'appelle. Mon premier point, c'est d'établir une différence entre le parler en langue, signe initial et évident du baptême du Saint-Esprit, et le don de parler en diverses langues, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Alors, je ne peux pas rentrer dans ces détails, mais je ne peux qu'attirer votre attention sur ce point-là. Chaque fois qu'il est question du parler en langue comme don spirituel, langue est au pluriel. Vous pourrez vérifier dans 1 Corinthiens 14. Et quand il est question du signe évident initial, il n'y a pas de S à pluriel. Ah, langue, pardon. Vous allez me dire, c'est anecdotique. Oui, parce qu'en français, on passe du pluriel au singulier avec un S. Mais en grec, ce n'est pas anecdotique parce que le mot est déformé. Et donc, Paul a quelque chose à nous enseigner ici au sujet de ce don en langue. Ce n'est pas un don en langue avec langue au singulier, c'est un don en langue avec langue au pluriel. Que veut-il nous dire ? Quelque chose de très intéressant. Parce que des fois, j'ai entendu cette chose qui n'est pas correcte bibliquement. Dieu m'a donné une langue. Dieu n'a pas donné une langue, mais il nous donne une diversité de langues. Et je crois que c'est voulu de la part du Seigneur. Vous savez pourquoi ? Ça nous empêche de rentrer dans des schémas tout préfabriqués, de nous enfermer dans des schémas tout faits, dans des routines. Et le Seigneur, au contraire, veut nous communiquer des langues nouvelles. Il m'est arrivé plus d'une fois, même dans cette assemblée ou dans d'autres. Il m'est arrivé aussi personnellement, plus d'une fois, apportant un don en langue, d'apporter dans une langue que je n'avais jamais apportée avant. Et puis après, je ne l'ai jamais apportée de nouveau. C'est une langue qui est venue à un moment particulier. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, vous qui pratiquez le don de diversité des langues ou qui aspirez, ne vous enfermez pas dans une langue. Seigneur, renouvelle mes langues. Et quand un don spirituel en langue est apporté avec cette richesse-là, c'est une marque de Dieu dans le culte. Cette langue est véritablement comme un don de Dieu. On ne l'a pas encore compris. Elle doit être interprétée. Mais déjà, on sait que le Seigneur est là. Elle est extraordinaire. Elle sonne à nos oreilles comme une véritable langue magnifique. Et nous avons soif d'entendre l'interprétation qui vient après. Alléluia. Alors, je reviens à mes questions de différence. Quelle est d'abord la différence entre le parler en langue au singulier comme signe évident initial du baptême du Saint-Esprit et le don de diversité des langues? Le don de diversité des langues, le don spirituel, selon 1 Corinthiens 12, 10, c'est une manifestation spontanée de l'Esprit à travers l'un ou l'autre rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui initions un don en langue. C'est le Saint-Esprit qui nous amorce, qui nous pousse et qui remplit notre bouche et notre cœur et notre bouche pour apporter un tel don. Je ne dis pas à un moment, je vais apporter un don en langue. Non, mais le Saint-Esprit me saisit. Par contre, à chaque instant dans ma prière et même dans ma vie de tous les jours, je peux faire le choix de parler en langue, n'est-ce pas? À chaque instant, je peux déclencher ce parler en langue. Je le disais une fois, j'en suis gestionnaire. Mais je ne peux pas déclencher un don spirituel en langue. Il faut pour cela être poussé par le Saint-Esprit. Nous officions en quelque sorte comme des canaux. Ça ne nous appartient pas, nous sommes un canal. Et le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut, et lorsqu'il trouve un canal ouvert, et ouvert, et propre à l'intérieur, alors il envoie sa parole, et l'Esprit de Dieu passe à travers nous. Je voudrais deuxièmement vous dire aussi que, et c'est là une différence entre le parler en langue comme signe évident initial du baptême du Saint-Esprit et le don spirituel en langue, c'est que le don spirituel en langue est un don d'assemblée. Le parler en langue, Paul nous encourage à le pratiquer abondamment à la maison et avec sagesse dans l'Église. Mais le don spirituel en langue n'a d'intérêt que dans l'Église. Il est pour l'édification de l'Église. Dans le culte privé, il n'a pas sa place. Mais c'est dans l'assemblée. D'ailleurs, le chapitre 14 fait référence entièrement à la manifestation et la pratique des dons spirituels dans l'assemblée. Mais pour qu'il atteigne son but, ce don, même si la langue est magnifique, si elle est extraordinaire, pour que ce don en langue atteigne son but, lui aussi doit être interprété. Même si la langue est magnifique, même si c'est une langue qui chante les louanges de Dieu, mais tant qu'elle n'est pas interprétée, nous ne l'avons pas compris. Et donc, nous ne sommes pas édifiés. Et c'est pour ça que le don spirituel de diversité des langues doit être accompagné de son corollaire, de son associé, le don d'interprétation. Et ce don d'interprétation n'est pas une faculté humaine personnelle à traduire une langue que nous aurions compris, que nous aurions apprise. Mais le don d'interprétation est aussi un don provenant de l'esprit. Mon intelligence est stérile. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me révèle le message qui doit être interprété. Paul dit, 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Je vous ai parlé de l'exemple de la Pentecôte. Je voudrais vous parler de l'exemple de Daniel. Rappelez-vous dans la salle de festin de Belshazzar, tout à coup, une main apparaît. Et le doigt de la main écrit sur un mur en chaux dans une langue étrangère. Personne ne comprend. C'est alors qu'on se souvient qu'il y a ce vieillard, Daniel, prophète du Seigneur. Et on va le chercher. Daniel arrive et on prie Daniel d'interpréter. Et Daniel, non pas par son intelligence, mais par l'Esprit de Dieu qui est en lui, va interpréter l'Écriture. Compter, peser, diviser. Et il va en donner instruction au roi, je ne vais pas dire pour son édification, mais pour son jugement, mais ça c'est une autre histoire. Mais si Daniel n'avait pas été là, de quelle utilité aurait été ce message ? Oh, ça aurait été mystérieux. Mais le roi n'en aurait rien compris. Bien, c'est pareil dans l'Église. C'est d'ailleurs le problème de Corinthe. Beaucoup voulaient parler en langue. Et Paul leur dit, attendez, stop ! Quand quelqu'un parle en langue, apporte un don en langue, il doit être interprété. Sinon, ça ne sert à rien, ça n'est d'aucune utilité. Alors, point particulier, le don d'interprétation peut être donné à tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui aspirent au don spirituel. Nous aspirons aussi au don d'interprétation. Ce n'est pas forcément celui qui apporte le don en langue qui interprète. En tout cas, ce qui est certain, c'est que celui qui apporte un don en langue a la responsabilité. Écoutez-moi bien, faites la différence. Non pas simplement d'aspirer à interpréter, mais il a la responsabilité de prier pour interpréter. Vous voyez la différence ? Dire que Paul veut responsabiliser ceux qui apportent des dons en langue. L'air de dire, ne considérez pas que votre travail est fini lorsque vous avez parlé en langue dans l'église en vous disant qu'un autre interprétera. Si vous apportez un don en langue, vous avez la responsabilité de chercher aussi son interprétation. Il plaise à Dieu de vous la donner ou de la donner à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous devez la chercher. Et je crois que c'est là quelque chose d'important. Je voudrais enfin finir sur un dernier point concernant ces dons en langue, en parlant du contenu. Que doit exprimer un don en diverses langues ? Autrement dit, quelle en est la finalité ? Et il existe deux écoles. Il ne s'agit pas de les opposer l'une à l'autre. On les trouve dans nos assemblées. Ça dépend de la sensibilité. Il y a ceux qui considèrent qu'un don en langue interprété a valeur de prophétie. Il est adressé à l'Église et il contient un message qui a pour but d'édifier, d'exhorter, de consoler. Un don en langue interprété égale don de prophétie. Et puis il y a une autre école, notre sensibilité, qui reste attachée à cette parole de l'apôtre Paul qui dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Dès lors, il considère que les dons en langue dans l'assemblée ne s'adressent pas à l'assemblée, mais à Dieu. Et donc leur interprétation n'a pas pour but d'exhorter ou de consoler, mais de rendre gloire à Dieu. Le don en langue n'est donc pas une prophétie, mais une louange. Alors, il ne s'agit pas encore une fois d'opposer l'un à l'autre, mais nous constatons de plus en plus dans nos assemblées que c'est plutôt le côté prophétique qui domine largement. Et je crois que nous nous enfermons de plus en plus dans ce schéma. Quelqu'un qui parle en langue, automatiquement, on se dit l'interprétation a valeur d'une prophétie. Et je pense que c'est dommage. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre des dons en langue qui auraient mérité et qui auraient dû être interprétés comme une louange. Et j'ai entendu des dons en langue avec la saveur d'un psaume être interprétés comme des prières de louange et d'adoration. Peut-être que l'Église, à ce moment-là, n'est pas exhorté et consolé à la manière d'une prophétie, mais je peux vous dire que lorsque on entend un tel don, une telle interprétation, le niveau de l'adoration s'élève et la présence de Dieu remplit le lieu. C'est comme si l'Esprit qui était sur David descendait sur l'assemblée, et c'est un temps tellement particulier. Alors je ne cherche pas encore une fois à opposer les deux écoles. Mais je crois que nous devons nous rendre sensibles tant pour ceux qui apportent un don en langue que pour ceux qui interprètent, à la direction que Dieu veut donner à ce moment-là. Alléluia. Voilà donc quelques paroles tout au long de ces semaines et aujourd'hui concernant le parler en langue et aujourd'hui donc le parler en langue dans l'Église. Paul nous dit d'être sage, mais il nous dit n'empêchez pas. C'est là tout l'équilibre de cet homme de Dieu qui n'a jamais agi pour trancher, mais pour instruire et pour amener dans le perfectionnement. Puissions-nous être une église où les dons spirituels se manifestent de plus en plus fréquemment avec de plus en plus d'amour, de puissance, d'authenticité. Puissions-nous être une église qui crée toujours des espaces de spontanéité, de liberté pour la manifestation des charismes. Puissions-nous être encore une assemblée où chacun se sente la liberté de louer le Seigneur dans sa langue pour édifier l'Église, mais de louer le Seigneur en langue nouvelle, dans le respect du reste de l'Assemblée. Car laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus pénible, et moi, pardonnez-moi d'utiliser ce mot, vous allez me dire que ce n'est pas très spirituel, mais c'est pénible d'entendre des gens qui, pendant des minutes et des quarts d'heure, ne font que prier en langue. Tout le secteur est au courant, mais personne n'est édifié. Il y a un temps pour prier en langue, comme cela, c'est à la maison. Et dans l'Église, nous préférons plutôt apporter 5 paroles qui édifient, plutôt que de milliers de paroles qui n'apportent rien aux autres. C'était là l'enseignement que je voulais voir aussi avec vous ce matin. Et au terme de tous ces messages, je veux revenir sur l'importance du parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne les pentecôtistes. Le parler en langue, ce n'est pas simplement une expérience. Le parler en langue est au cœur même des Écritures. Jésus nous l'annonce. Les apôtres l'ont vécu. Et ensuite, ils nous ont donné un enseignement. Non pas simplement pour un temps donné, mais pour l'Église jusqu'à ce que Christ revienne. Quand le Seigneur reviendra, c'est sûr, nous n'aurons plus besoin de parler en langue. Mais jusque-là, elles ont une utilité. Quelle utilité ? Tout d'abord, les langues participent à notre croissance spirituelle personnelle. Parce qu'elles nous édifient. Elles nous construisent. Ce sont des langues de l'esprit qui construisent le temple de l'esprit. Je l'ai dit aussi, les langues sont un moyen d'action dans le monde spirituel. Ce sont des prières de l'esprit qui agissent dans le monde de l'esprit avec des répercussions sur la terre. Elles sont un élément important de la prière d'intercession. Les langues nouvelles sont aussi un moyen d'adoration. Dans notre culte privé, nous racontons les merveilles de Dieu, nous chantons, nous louons le Seigneur, chantez-vous le Seigneur. Oh, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai envie de vous le dire encore, chantez le Seigneur. Phoebe, même chez toi, tu auras le droit de chanter maintenant. Chantez en langue. Goûtez à cela. Abandonnez-vous. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Vous verrez même que des fois, comme David, vous danserez dans le Seigneur. Tellement vous serez pris par le Seigneur. Moi, quand ça arrive des moments comme ça, j'ai du mal à rester sur mes genoux, alors je commence à marcher, à lever les mains. Vous l'avez l'habitude aussi. C'est tellement bon de laisser l'Esprit de Dieu nous remplir, nous conduire comme cela. Et puis, c'est aussi un moyen d'adoration dans l'Église. J'apprends à être équilibré en parlant en langue dans l'Église. Je le fais pour moi et pour le Seigneur. Mais je veille aussi, si jamais le Seigneur amorce mon cœur. Je veille, Seigneur, si aujourd'hui tu veux m'utiliser pour apporter un don en langue. Voyez-vous, je finis par ce point. Je remarque de plus en plus que il y a beaucoup plus aujourd'hui de dons, de prophéties que de dons en langue. Un souci d'efficacité. Mais je crois aussi des fois, un souci de gêne. un don en langue. Au moins, quand on prophétise, on maîtrise un peu mieux les choses. Peut-être aussi parce que trop souvent, les dons en langue sont devenus à nos oreilles trop mécaniques, trop répétitifs, parce qu'ils n'ont pas veillé à cette diversité des langues. Autrefois, nous étions connus comme les Holy Rollers, c'est-à-dire ceux qui parlent en langue à tout bout de champ. Et aujourd'hui, même dans nos églises de Pentecôte, c'est en train de s'éteindre. Pourtant, quelle grâce, quelle puissance. Recherchons cela, mes frères et sœurs, pour que l'Église soit édifiée. Alléluia, 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 gloire à Dieu.